Amis de la poésie et de Radio Occitanie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul.
Aujourd'hui, allô ?
Oui. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous, par téléphone...
Allô ?
Oui, oui. Joël Vernet, vous êtes à l'antenne, là.
Hein, j'entends très mal.
Ah, alors, on va faire en sorte...
Ouais, le volume est trop bas.
Le volume est trop bas.
Voilà, c'est mieux, là, c'est mieux. Voilà.
C'est bien, là, maintenant ?
Un peu plus haut.
Un peu plus haut, c'est... Bon, alors, je disais, nous avons le plaisir... Et son, pardon, est-ce qu'on peut m'enlever le retour du haut-parleur ? Du haut-parleur, parce que j'ai deux... Bon, petit problème technique, ça arrive. Alors, je disais, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous une des plus grandes voix, et je pèse mes mots, de la poésie française contemporaine. Alors, il s'agit de Joël Vernet. Joël Vernet, nous avons consacré beaucoup d'émissions sur l'œuvre de Joël Vernet, et aujourd'hui, il vient nous parler d'une de ses dernières publications. Ce n'est pas la vraie dernière, mais c'est une publication qui me semble être considérable dans son œuvre, qui fait suite à une première publication qui avait paru en 2019 aux éditions La Rumeur Libre, qui s'appelait Carnet du Lanchemin Copeau. Et cette fois-ci, eh bien, c'est la suite de ces carnets du Lanchemin sous le titre de Copeau du dehors. En deux mots, Joël Vernet, c'est un personnage complètement atypique de la poésie contemporaine, mais qui me semble en être aussi une sorte de quintessence. On s'en expliquera peut-être tout à l'heure. Il est atypique parce qu'il ne cherche pas dans notre monde contemporain des écrans, de l'image, où il faut faire parler de soi à tout craint. Joël Vernet, c'est l'inverse. Il est né dans un petit village, en Margeride, c'est un petit village qui est aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère. Il va vivre dans cette vie rurale d'une façon, comment dirais-je, très humble, très, très modeste. Et à 16 ans, il va partir seul, sans argent. Il va faire son tour d'Europe. Hein, vous imaginez, surtout à cette époque-là, quand même, quelle volonté il faut avoir pour se lancer comme ça sur les routes des Balkans à la Suède. Et, dit-il, il se nourrissait d'oignons, de pain, de sauce tomate. Il couchait n'importe où, à la Belle Étoile. C'était pure folie. Il explique même qu'il a connu une fille dans le nord roumain qui voulut l'épouser, tandis que son fiancé de l'époque faillit lui faire la peau. Et il pratiquait le gardiennage d'oies, les visites, bien sûr, impromptues de monastères. Et il a réussi à prendre la tangente, dit-il, qui lui permit de n'épouser personne et surtout de sauver sa peau par trois reprises, sauver sa peau. Et il a été interrogé ensuite en Bulgarie, par les flics de Ceausescu à trois reprises, puisqu'on se demandait ce qu'il faisait là. Voilà, ça c'était pour situer un personnage qui, dès ses années 75, entreprend ces voyages qui vont le conduire aux quatre coins du monde. Et au fil des nombreux ouvrages publiés, ce serait trop long trop longs pour qu'on les énumère ici, mais je vous invite à regarder la liste sur Wikipédia, et puis nous la mettrons également sur notre site, lespoètessansaccent.site. Nous mettrons toutes ces caractéristiques donc pour nos auditeurs. Et donc, il va développer ce style singulier dont nous allons parler, qui est un style entre la poésie et le journal de voyage, le carnet. Disons qu'il a vécu également 2 ans à Alep, en Syrie, et qu'il vit depuis donc plus de 20 ans dans ce petit village dont je vous parlais, la Margeride. Alors, il précise que ce n'est pas pour s'éloigner du monde, au contraire, mais c'est pour en être plus proche. En 2021, Joël Vernet a remporté le prix de poésie Heredia de l'Académie française pour « L'oubli est une tache dans le ciel », qui est un recueil en prose qui a été publié chez Fata Morgana. Et puis, récemment, il a été lauréat du Grand Prix de poésie Robert Ganceau pour son livre « Mon père se promène dans les yeux de ma mère » aux éditions La Rumeur Libre, ce prix récompensant également l'ensemble de son œuvre. Alors, Joël Vernet, bonjour. Merci
bonjour.
Beaucoup d'être avec nous.
Christian, vous est-il possible d'élever un peu la voix? Non, pas, je ne suis pas sourd, hein, mais je n'entends pas très très bien.
Voilà, j'ai demandé, c'est une... Donc je vais parler un peu plus fort.
Oui, merci, et oui.
Voilà.
C'est très bien.
Est-ce que là, ça va mieux?
Ça va, c'est bon. Parfait.
Alors, d'abord, j'ai été totalement bouleversé, séduit au plus haut niveau par Copeau du Dehors. Et je crois que maintenant, la poésie contemporaine, qui est bien entendu polymorphe, et c'est normal qu'elle soit polymorphe, mais c'est cette poésie-là, à moi, qui me touche le plus, et qui, je crois, mais ça n'engage que moi, est celle qui va rester. Voilà. Je voulais dire ça, vraiment. Alors, nous allons parler, Joël, de Copeau du Dehors. Ce livre, il est la suite un peu de ce que je disais, donc, les carnets du Lanchemin. Et il rencontre de votre démarche d'homme, mais également démarche de poète, de créateur, d'artiste, qui est indissociable. Vous allez dans les chemins, vous allez parcourir le monde, vous allez regarder le monde, et on rappelle que notre dernière émission sur vous, c'était pour Journal d'un contemplateur, c'est-à-dire cette contemplation du monde qui vous emplit de l'humanité. Et cette humanité que vous voyez, que vous avez respirée, que vous nous redonnez, qui rejaillit dans une langue qui est une langue magnifique, qui est une langue qui dit vraiment ce qu'est l'humanité et qui, à mon sens, est vraiment la langue qui va rester. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on va reprendre ce journal, les Copeaux du Dehors. D'abord parce que il part des souvenirs de votre enfance. C'est une enfance qui est passée à la campagne, et il vous suffit de voir une école pour que ces images de l'enfance ressurgissent, l'image de la maîtresse d'école et de votre mère aussi, votre mère qui a une part considérable dans votre œuvre et dans Les Copeaux du Dehors en particulier, votre mère que vous décrivez là comme une mère exténuée par les tâches ménagères. Mais Vous parliez aussi du, et ça nous intéresse bien sûr à Radio Occitanie, vous parliez du patois, le patois musical et l'universalité de ce vécu d'enfance. Et vous dites, sur la frontière, je lis l'alphabet incertain du poème.
Oui, merci Christian pour tous ces mots que vous accordez à, tous ces bons mots que vous accordez à mon travail. Bon, j'espère qu'il le mérite, mais vous savez, lorsque j'ai pu écrire tous ces livres, que ce soit les plus anciens ou maintenant Au copeau du dehors, je n'ai jamais pu et su mesurer peut-être leur ampleur et l'attachement au fond à tous ces lieux, à tous ces êtres qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Il en va de ma mère, il en va de maison, il en va de visage et de tant d'autres choses. Et c'est avec la distance, le recul, que aujourd'hui je fais le constat de ces offrandes que m'ont apporté tous ces êtres et tous ces lieux. Parce que lorsqu'on est plongé dans l'écriture, on est un peu dans un état à la fois de grande lucidité, de grande clairvoyance, et puis aussi on est dans des formes de une forme d'état d'ivresse. Donc mon ambition a été, je ne sais pas laquelle, je vous lirai un texte à la fin de l'émission, un texte inédit où je résume un peu tout ça, mais il est vraiment, je crois que les poètes, nous avons peut-être pas des siècles, mais des millénaires d'avance sur tant d'autres écritures. Vous voyez, mon père se promène dans les yeux de ma mère, c'est un hommage à la mère, et je ne suis pas le seul à avoir rendu cet hommage à nos mères. Il paraît que la rentrée littéraire contemporaine nous fournit plusieurs romans sur ces questions de familiales, sur ces questions des pères, des mères. Eh bien, moi, dans mon travail poétique, j'ai une ambition qui est peut-être d'une vanité grossière, mais j'ai voulu faire entrer dans mes petits livres tous les enjeux, toutes les connaissances, tous les livres d'une vie d'homme ou de femme. C'est-à-dire que, voyez, comment peut-on faire tenir dans un livre de poésie l'essentiel qui n'est absolument pas aujourd'hui ni entendu, ni approché. Vous pouvez avoir des prix littéraires, ça signifie rien. Personne ne vient frapper à votre porte, car la poésie et peut-être l'essentiel n'intéresse pas grand monde. Car nous nous tenons loin, loin, très loin du tapage, et les mots, les grands livres de poésie, à mon sens, embrasse l'essentiel qui est un feu. Vous voyez, au moment où je vous parle, je suis là avec vous, mais je ne suis pas là. Je suis à des milliers de kilomètres, près d'une personne qui est en train d'être enterrée, qui m'a été une personne très chère, que l'on enterre à des milliers de kilomètres d'ici. Eh bien, je suis avec elle, et au fond, à ma place, c'est le tilleul qui est en face de ma fenêtre, qui converse avec vous. Ce magnifique tilleul qui est habité par les oiseaux, par tout un alphabet, c'est lui qui parle aussi avec moi, et moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là et je suis là partout sur la Terre, avec au cœur de ce cosmos. Et voyez, mes petits livres qui ont avancé sans bruit, ils ont poussé des portes, parce qu'à un moment donné, les quelques portes ne peuvent pas rester complètement fermées, et il y a un lecteur, une lectrice, quelques lecteurs, quelques lectrices qui se lèvent et qui disent « oui, là, dans ces pages, il y a quelque chose qui nous importe ». Voilà, cher Christian, vous savez, il y a des moments, je n'ai même plus envie de parler. C'est peut-être pour ça que j'ai écrit pour essayer de sauver quelque chose de ce silence, exceptionnel, et de montrer que cette vie, elle sait être fabuleuse pour peu qu'on la regarde, la sente, la contemple, etc. Donc, on ne sait plus parler. C'est ce silence aussi que j'ai cherché dans les mots, ce silence, cette précision, cet alphabet que m'ont donné les bêtes. Les pâturages, les champs, les... Vous voyez, tout récemment, j'ai fait une expérience qui, pour moi, est monumentale. On m'a permis de visiter dans mon village natal le taudis dans lequel nous vivions. Nous étions 7, parfois 8, et j'ai revu cette maison aujourd'hui en ruine à l'intérieur avec les planchers abattus. Et étrangement, c'est une sorte de déflagration joyeuse qui m'a traversé, parce que même la misère n'a pas pu nous écraser. Et lors du langage, s'est avancé pour moi et m'a dit « Tu peux faire quelque chose avec l'alphabet de ta langue, puisque la langue... la langue occitane, ils l'ont effacée. On ne sait pas par quel stratagème, par quelle mystérieuse combinaison, on a tué cette langue et tant de langues minoritaires du monde. Donc, voyez, j'ai surgi dans cet effacement et dans cette sorte de résurrection de la langue française. Je me suis arraché à l'obscur qui au fond aurait aimé que nous restions des esclaves, mais nous n'avions pas l'âme d'esclave et nous ne l'aurons jamais.
Surtout un poète. Vous parliez.
Oui, Christian, je vous entends
vous,
pas
vous
trop bien.
Vous parliez
là.
Tout à l'heure d'un deuil qui vous frappe. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de nous lire le paragraphe 13 de la page 24 où justement vous parlez de cela, le deuil.
Oui. Alors, les deuils évidemment sont des choses bouleversantes, mais les deuils nous renforcent dans cette vie pour que nous demeurions vivants. Nous avons toutes et tous traversé parfois de nombreux deuils et on en est ressorti peut-être encore plus éclatant et non pas moribond. Je vais vous lire ce petit texte qui est tiré donc des copeaux du dehors. Quand s'en va l'un des nôtres ou même un inconnu, sanglote dans notre corps une pluie de larmes. Quand mon frère et ma sœur sont partis rejoindre des nuages de cendres, je n'ai jamais trouvé les mots pour leur dire adieu, me contentant de secouer un sac plein de larmes. Aujourd'hui, dans l'île, je ne sais plus où ils sont, mais cela n'a plus d'importance. Ils reposent entre les fleurs sous de grands arbres, dans les vagues, selon leurs vœux. Les morts veillent sur nous tous, se moquent désormais de nos péripéties, de nos vieilles querelles. Ils sont à l'aise dans la liberté qui est la leur, tandis que nous sombrons une ancre à la cheville. La souffrance ne leur appartient plus. Ils nous ont abandonnés sur un seuil que nous ne franchirons pas dans l'immédiat. Mais la seconde viendra comme un éclair qui nous rapprochera d'eux. Nous les rejoindrons dans les neiges, les tempêtes, les accalmies, ensemble, une nouvelle fois, pour l'incertain chemin. Voilà.
Merci Joël, j'ai trouvé ce texte vraiment réconfortant. Il y a quelque chose de réconfortant dans ce texte. Vous êtes... alors, il y a bien entendu, on a compris, que il y a chez vous une indifférence absolue au monde du consumérisme. Et il y a quelques pages, vous parlez, vous qui avez pratiqué ce que vous appelez les nomadismes, tous ces voyages, tous ces errements dans des lieux qui ne sont pas choisis pour leur intensité touristique, mais pour leur authenticité, il y a une page aussi sur la tragédie des migrants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, je ne sais pas quelle page dans les copeaux du dehors, en effet, vous savez...
C'est page 21.
Les migrants, c'est-à-dire tous ces damnés des politiques mondialisées, ultralibérales, qui poussent les gens dans la pauvreté, dans la fuite, dans l'accablement, nous les voyons partout sur le continent européen, où ils sont relativement mal accueillis, d'après ce qu'en disent les experts. Et voilà, je les croise aussi sur ma route et impuissant, au fond, je les regarde. Et il m'est arrivé dans une gare en Croatie, une gare qui ne fonctionne qu'au ralenti. C'était dans la ville de Rijeka et c'était l'hiver. Et donc je rentre dans cette gare où il doit y avoir un seul guichet. Et j'allais là-bas pour poser un sac parce qu'il y a des consignes encore qui existent. Et lorsque je me suis mis sur les quais de cette gare, eh bien, j'ai aperçu des centaines de corps qui étaient allongés, des femmes, des enfants, et donc qui étaient des migrants d'Afrique noire, d'un peu partout. Et puis, je suis repassé quelques mois après et il n'y avait plus rien, donc où étaient passés tous ces gens. Donc j'ai écrit en effet un petit texte là-dessus, parce que cette question est une question majeure qui traite aussi de qui témoigne de notre humanité ou de notre inhumanité à l'aube de bouleversements considérables, puisque les migrations ne cesseront jamais, elles ont toujours existé, elles persisteront, elles se développeront, et même dans notre propre pays, nous aurons vraisemblablement un jour le devoir d'accueillir des réfugiés du littoral qui viendront se réfugier peut-être au cœur du Massif central parce que ils seront, soit leurs maisons auront été incendiées, soit ils vont périr dans les inondations. Donc c'est quelque chose qui est documenté. Et si on s'intéresse un peu à au tremblement du monde, eh bien, on ne peut pas rester indifférent à ces êtres qui quittent tout et pour un avenir extrêmement incertain. Donc, voyez, lorsque on est confronté à un événement aussi minuscule, aussi douloureux, aussi parfois fugitif, eh bien c'est là peut-être où l'œil et le cœur des poètes s'élèvent et essayent de donner trace à tout ça. Parce que j'aimais beaucoup cette phrase de Bramanveld, le grand peintre que j'ai eu l'honneur de connaître une fois dans ma vie et de partager un moment avec lui. Il fut l'ami de Beckett, de Charles Julliez. Et Bram van Velde a écrit une phrase que je trouve admirable et je pense que je pourrais la mettre en exergue de tous mes livres. Si l'on reste en haut, il n'y a pas de vie. Il faut se tenir en bas. Alors, qu'est-ce qu'est le haut? Qu'est-ce qu'est le bas? C'est à nous de le tenter de le définir.
Vous dites également, jamais il n'y eut, vieille rengaine, de temps idéal. Nous pouvons lire et relire toutes les pages du passé. Elles transpirent la misère, la solitude, les rengaines du désespoir. C'est-à-dire, est-ce que cela implique qu'il n'y a pas de lendemain qui chante ?
Eh bien, nous aimerions qu'il y ait des lendemains qui chantent, mais les lendemains qui chanteront, ils seront notre œuvre ou ils ne seront pas. C'est-à-dire que la jeunesse et les générations nouvelles, elles ont vraisemblablement le devoir d'inventer un autre monde qui, pour l'heure, nous est totalement inconnu. C'est un monde qui peut s'ouvrir sur le pire comme sur le meilleur. Mais il nous appartient à toutes et tous d'apporter quelque chose pour que nous sortions de tout ça par le haut et non par le bas. Rien n'est joué, rien n'est définitif, mais vraisemblablement que nous avons à nous intéresser par l'action, pas simplement par les livres, mais aussi par l'action quotidienne, à toutes ces questions majeures qui se posent, parce qu'elle frappe au cœur du vivant. Et le vivant, eh bien, c'est quand même le noyau dur de la poésie ou de l'art.
Vous parlez également de la perversité et de la lâcheté humaine. Lors d'une émission, j'ai lu d'ailleurs cet extrait que je vais vous demander peut-être, si vous le voulez bien, de lire. C'est page 60.
Page 60, d'accord. Ah oui, c'est un texte assez long.
Oui.
Oui. Attendez, je vais le retrouver. 60.
Voilà,
j'y suis. Oui, je vais le lire, oui.
Peut-être à partir de « Certaines conversations sont pires que des coups de poignard
». Alors, voilà. Je ne sais pas, c'est 60 ou 61 ? Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Oui. Certaines conversations sont pires que des coups de poignard, des empoisonnements. Il fut un temps pas si lointain où l'on vous imposait de prendre le train pour une destination inconnue. On séparait les femmes et les enfants, on entassait les vieillards, cela au nom d'un règlement, à l'enseigne du droit et de la justice. La police vous enlevait les clés de votre propre maison, et des badauds vous regardaient monter dans les wagons avec une joie évidente, applaudissant ses prouesses funestes, félicitant la police d'être aussi efficace. La déraison tissait sa toile dans laquelle tombaient des millions d'innocents comme un peuple de mouches. Dans le poème doit brûler l'essentiel, sinon pourquoi lâcher des phrases sur les pages des livres? Le peuple des innocents, dont chaque syllabe doit être l'écho, chemine en plein jour et en pleine nuit dans cette mémoire que nous lègue l'histoire. Un enfant se jette d'un pont, un vieillard se pend à une poutre, une femme sombre dans la folie, s'enfuit à travers la campagne, hurlant son épouvante. À l'aube, on voit des tas de cendres encore fumantes, des maisons saccagées, des chiens qui rôdent autour des fermes. Les badauds sont rentrés chez eux en riant, et toi, aujourd'hui, des années après, tu recherches la beauté des fleurs, le parfum des lilas, celui des genêts, des vieilles étables, des bergeries anciennes. La honte et le mensonge se sont dissous dans la grande machine du temps et la poussière de l'horreur a glissé sous le tapis. Les badauds sont toujours là, aussi éternels que l'infini. Tu les regardes passer, t'étends les mamelles de la perversité et ne penses plus à rien. Tu n'entends plus que la rumeur des catastrophes anciennes que l'on a remisées dans l'oubli. La rumeur s'en est allée comme une barque derrière un rempart de roseaux. Elle tangue un peu. C'est toujours le mal dans un autre siècle, puis disparaît. Mes yeux la cherchent en vain. Tant de douleurs ne devraient pas nous quitter. La barque est un son de flûte à travers les années, une cheminée de cendres. Oui, et voilà, mais les badauds sont toujours là, les massacres maintenant se poursuivent sur les écrans télévisés, et on assiste sans doute, comme le qualifie l'ONU et les organisations internationales, à un génocide... à un génocide, à un massacre de civils comme jamais à l'orée du 21e siècle. Et les badauds sont là, ils assistent, ils regardent, ils fustigent, ils empêchent les voix de s'exprimer. Eh bien, moi je suis du côté des réfractaires, de ceux qui refusent l'abomination contemporaine. Voyez. Vous voyez à quoi je songe,
tout à fait.
Pas
tout à fait. Alors, dans tout ce livre Copeaux du dehors, il y a, on voit l'élaboration d'une pensée qui naît avec les souvenirs. C'est-à-dire que les souvenirs et la contemplation sont les deux outils de cette pensée poétique qui vous habite et qui, j'espère, habite l'humanité.
Oui, vous savez, Christian, tous mes livres et ces copeaux du dehors, souvent je m'insurge un peu contre, je suis déchiré par l'idée de partir en voyage, de rester immobile. Je fustige le déplacement dans la mesure où aujourd'hui le monde est d'une homogénéité vraiment peut-être scandaleuse, donc à quoi bon. Et puis je m'inscris, je pense, dans la tradition de la création classique aussi, c'est-à-dire que comment créer une œuvre en se penchant seulement sur l'avenir, sauf à être un écrivain de science-fiction. Donc, ce que je ne suis pas, bon, la science-fiction a vraiment le droit d'exister et peut imaginer ce qu'elle veut, comme la prose romanesque. Voilà, ce monde est infini, comme la poésie. Je n'ai jamais compris tous ces petits procès que mènent les uns et les autres, quand telle ou telle forme, telle ou telle investigation. Non, tout est précieux. Il est bon de créer tout azimut. Mais moi, étant très maladroit et ne trafiquant qu'avec le très peu, avec ce qui m'entoure, eh bien, j'ai su d'intuition douloureuse que, au fond, on ne choisit pas ni sa vie, ni son lieu de naissance, ni les drames, ni les joies, ni quoi que ce soit. Donc, ce qui était fondamental dans ma propre vie, eh bien, c'était quelque chose, comme dans toute autre vie, c'était quelque chose qui était très précieux. Et je sais que mes livres, ils sont fondés sur le silence de ma mère et la mort de mon père. Avec ces deux flèches, j'ai décoché sur la page, j'ai décoché dans la mémoire une constellation essentielle de souvenirs. Parce que je pense que ça appartient à l'humanité universelle. je n'avais pas besoin d'aller d'aller créer des personnages, leur donner des noms, des prénoms, voilà. La poésie, qui est cette concentration extrême, peut-être de l'éclat, de l'essentiel, eh bien, m'a offert cette possibilité de dire le très peu, et c'est-à-dire l'essentiel avec peu de mots. Et donc, je m'appuie sur ces fondations qui m'ont fondé, et parce que j'ai l'intuition qu'elles valent, peut-être que c'est trop ambitieux, mais elles valent pour beaucoup d'entre nous. Et donc, je n'ai pas à les écarter, je n'ai pas à considérer que ma petite vie est complètement insignifiante. Donc j'ai travaillé, peut-être beaucoup plus évidemment, pas avec le même génie que Proust, mais j'ai travaillé à fond sur la mémoire, sur le souvenir qui a été le moteur de et qui reste le moteur de tout. Donc j'enlace à la fois le présent et le passé. Ces copeaux du dehors, eh bien, je les attendais pas. Je ne serais pas parti en voyage, ils n'auraient pas été écrits. Ce sont des lieux, des êtres rencontrés, des souvenirs d'enfance. Je mélange tout. Je mélange tout. Et donc, après plusieurs années, ben, la 3 années de travail, c'est une sorte de mur de pierre sèche que j'ai élevé, j'espère avec le plus grand soin possible, pour que, eh bien, ils tiennent face aux intempéries.
Vous dites d'ailleurs très bien, ce que mes yeux ont vu ne se refermera jamais. Et en même temps, vous faites l'apologie du mouvement. Vous dites, le dehors est ta maison, toi qui n'as bâti aucun toit, aucune assise, répondant à la seule grâce du mouvement.
Oui. Oui, le mouvement, cette sorte de geste, c'est presque le que j'aurais aimé être, voyez, calligraphe ou peintre, un homme silencieux qui n'a même plus besoin de parler, mais qui, avec quelques traits, sait dire le tout, sait dire le peu, sait dire l'essentiel. Et c'est le mouvement de la main, du corps, du... Mais ce mouvement, je l'aime, non pas, si vous voulez, contenu sur l'estrade d'une maison de danse, ce qui est très très beau, hein, qui peut être très très beau, mais c'est ce mouvement des corps inconnus dans l'espace public, un peu périphérique, ces lieux où... vous voyez, il y a des corps qui échouent, il y a des corps qui sont cabossés, il y a des corps qui ont un élan, une vivacité. J'aime beaucoup ces espaces intermédiaires des villes, des campagnes, des quartiers qui sont un petit peu abandonnés, qui sont un peu ces lieux où la vie elle résiste malgré tout. Et j'aime pas, si vous voulez, les lieux de l'opulence où nous sommes gavés par les lumières, par les consommations, par tout ce qui brille, quoi. J'aime les lieux où, me semble, flotte encore une idée de la vie, mais qui est évidemment fragile, qui est précaire, et j'aime. Vous voyez, j'aime beaucoup ça. Il m'arrive même quelquefois, vous voyez, en traversant des lotissements où je ne vivrai jamais, mais je me dis que peut-être les lotissements sont les lieux d'une forme de tragédie contemporaine qui contient tout l'ennui du monde, le peu d'horizon, etc. Voilà, quand vous me parlez de ça, je songe un petit peu à ça.
Et vous dites voir et vivre, voir être vivre.
Oui. Alors, voir et vivre, j'avais écrit un texte parce que j'étais un peu sur le qui-vive parce que un jour mes lunettes sont tombées dans un j'ai perdu mes lunettes, elles ont pris feu dans un feu que je préparais, mais je ne me suis pas rendu compte qu'elles étaient tombées. Donc je les ai recherchées et je n'ai trouvé que l'acier, le verre avait fondu. Et m'est venue l'idée que si je perdais la vue, si un être perd la vue, qu'est-ce qui lui reste à voir? Est-ce qu'on peut vivre sans voir? Est-ce qu'on peut vivre, voilà, est-ce qu'un écrivain sans l'œil pourrait vivre, pourrait écrire? Voilà, c'était des questions comme ça. Et donc, c'est une phrase un peu concise, qui n'est peut-être pas exacte, hein, qui n'a peut-être aucune portée, mais j'ai pensé que pour moi, en tout cas, le fait de voir était un des merveilleux cadeaux de cette vie, que je ne souhaiterais pas être amputé de la vue.
Vous dites...
Je ne pourrais plus lire, je ne pourrais plus voir la lumière, je ne pourrais plus voir tout ce qui nous entoure, ça serait pour moi dramatique. Donc je ne sais pas pour voilà les gens qui sont aveugles comment ils se tirent de tout ça quoi.
Vous dites exactement, tu ne diras jamais tant pis si tes yeux ne voient plus, tu ne diras jamais qu'être aveugle est une bénédiction, mille fois sous toutes les intempéries, tu as lâché ces mots d'une voix claire, voir est vivre. Voilà. Pour avoir fait personnellement l'expérience, pour avoir été opéré d'un œil, d'une tumeur à un œil, et pour avoir fait l'expérience de ce qu'était une vie sans voir, je peux dire vraiment que pour ceux qui n'y sont pas préparés, c'est l'enfer.
Oui.
Alors, il y a aussi chez vous la vie silencieuse. Donc, vous avez rappelé qui est dû à l'évocation de la mère, votre enfance qui vous a conduit, paradoxalement, parce que si j'ai bien compris quand même, c'était une vie assez trépidante, votre enfance. Dans la campagne, vous ne manquiez pas d'activités, même solitaires, mais c'était des activités physiques, vraiment, de ce mouvement dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, c'est une enfance à la campagne, dans un monde qui a aujourd'hui sombré, basculé. Qui n'est plus du tout...
qui a disparu, complètement.
Qui n'est plus du tout cette campagne que notre génération a, et puis la précédente a connue. Et pour moi, c'est une enfance qui a ruisselé de lumière et qui m'a donné, je pense que avant 10-12 ans, bien des choses étaient acquises pour moi que je n'oublierai jamais. Et c'est après les années passant que j'ai pu constater que toutes ces postures, ces mouvements, ces pratiques extrêmement rustiques qui évidemment font rire bien des citadins, bien des grands penseurs, mais vous savez, Pasolini disait qu'il n'y avait pas de plus grande chose sans doute dans une vie que de vivre dans un village entouré des siens et dans une campagne précieuse. Donc j'ai reçu là la grande leçon des abeilles, la grande leçon immortelle des libellules, la grande leçon du regard des vaches. Alors, tout ça, je le sais, on va me dire c'est idiot, il est naïf, c'est un innocent, c'est un mièvre, etc. Mais moi, l'éclat de toutes ces choses a fondé ma poésie. Et donc j'ai avancé avec dans les ténèbres contemporains avec l'éclat de ces choses que j'ai vécu petit enfant, allant garder les vaches accompagné d'un chien sous la pluie avec un grand vêtement, et quelque chose de très archaïque, au fond, de très biblique, de très ancien. Et donc, je suis peut-être le messager de cette vie archaïque qui a disparu et l'autre jour, en Margeride, on m'a conduit dans un lieu dit où, survivaient deux ou trois fermes, et j'ai vu là un homme que je ne connaissais pas personnellement, mais qui était né dans l'une des fermes. Il avait 86 ans et il n'a jamais bougé de cet endroit, c'est-à-dire pris entre une maison de pierre, un jardin potager, une cour. Et je me suis dit, au fond, Joël, t'aurais pu aussi être cet homme, et tu as été tout autre. Et chose étrange, c'est qu'il m'a reçu avec un esprit très ouvert, très très ouvert. Sa ferme a un horizon dégagé, il est dans la lumière, mais aussi quelle solitude, parce qu'il a vécu là avec ses parents. Ensuite, à la mort de ses parents, il s'est retrouvé célibataire, et donc il est resté là. Et il a vécu une vie d'homme, loin du tapage, loin du bruit. Il est peut-être l'écrivain qui... le poète qui n'écrira jamais, jamais, et il a eu une vie qui, à mes yeux, est extrêmement singulière. Dans les copeaux du dehors, qui sont un livre de fragments, c'est vraiment un journal poétique, mais ça peut se lire, ça pourrait presque se lire comme un récit, comme un roman. Oui. Parce que, au fond, ce sont des scénettes, des tableaux du passé, du présent. Et jamais j'aurais imaginé être capable de mener un tel travail, je vous l'avoue. C'est pour moi une source inattendue de stupéfaction. Comment as-tu pu faire ça ?
En tout cas, c'est pour notre grand bonheur. Hein. Et je vais parler d'autre chose, et puis je vais vous demander, puisque on me fait signe que nous n'avons plus que 4 minutes. Donc, en deux mots, parler un petit peu sur la poésie à partir d'une citation là, que je vais lire. Et ensuite, vous avez parlé de nous lire un extrait. Et donc, cet extrait que vous avez annoncé au début de l'émission, je vais vous demander de le lire. Alors, en deux mots, je voulais vous lire ceci. Vous dites, « Quand cesseras-tu donc de croire en la prouesse de la poésie, en ses illusions ? Nul langage n'a jamais pu empêcher l'esclavage ancien et contemporain, n'en déplaise aux maîtres de petites ou de grande envergure. La docilité t'est une telle épreuve. Tes colères sont plus amples que toutes les montagnes, et le oui du consentement idiot ne sortira plus jamais de ta bouche. » Voilà. Un petit commentaire sur cette profession de foi.
Oui. Oui.
Que l'on partage, je peux vous l'assurer. Et puis, lecture de cet extrait, et ensuite, nous prendrons date pour une nouvelle émission, parce que vous le voyez, le temps passe très vite.
Oui, donc, si vous voulez, c'est ce que je nomme la sainte colère, c'est-à-dire tenter dans ce monde quand même très complexe de garder une clairvoyance au fond sur l'humanité, hein, parce que si l'humanité si tout ce qui est humain disparaît, si toutes les lois qui régissent nos mondes, nos sociétés, eh bien sont englouties dans la boucherie universelle, eh bien nous serons perdus. Donc c'est l'espoir, moi à mon humble niveau, l'espoir que la langue, eh bien le poème peut converger avec tant d'autres choses qui touchent à l'essentiel. Voilà, je ne suis, comme disait René Char, pour le paraphraser, je ne suis pas séparé, je suis parmi tous les autres. Mais pour être parmi tous les autres, eh bien parfois il faut se tenir un peu à l'écart. C'est le paradoxe.
Oui. Pas un paradoxe, c'est une nécessité.
Donc je vais vous lire ce passage d'ailleurs qui conclut un peu là-dessus. C'est un inédit donc de Carnet. Il y aura un deuxième volume de Carnet du Langchemin dans quelques années. Là, bon, peut-être en 2028. Je n'ai pas rien programmé, mais voilà. Donc c'est un fragment inédit. La maison du silence. Je vis, j'écris dans une maison ouverte sur le ciel, l'insouciance d'un jardin, dans un village perdu où je n'existe pour personne. C'est une maison nomade, errante, sans mur, ni toit, ni fenêtre, et je ne suis surtout pas propriétaire de la lumière entrant ici à profusion. Je n'ai pas de bureau, ne me prends pas pour un écrivain, un poète. Ma table est un arpent de songes, de souvenirs, d'utopie. J'écris là quand le froid n'est pas trop prégnant, dans le vent de ce jardin, sous un arbre ordinaire, assis sur une souche. Je me rassemble et le peuple des ancêtres, celui de l'avenir, répond parfois à mon appel. Ce sont les vivants et les morts de mes paysages. D'une certaine manière, je vis très loin de mon époque, pourtant en son cœur. J'en ressens les moindres pulsations. J'écris aussi contre mon époque, ce monde qui va si mal, car il y a lieu, me semble-t-il, de résister, et pas seulement en paroles, en déclarations tonitruantes. La colère est souvent une complice inégalable. Mes résistances sont toutes ces pages que j'ai gravées dans le silence, sans effort démentiel, car le temps dont j'ai toujours disposé fut mon plus sûr allié. Je n'ai jamais appartenu à aucune troupe, me suis tenu loin des cercles et même vilipendé leur vanité absurde, leur arrogance dérisoire. Je suis resté l'écolier de la vie sauvage. En vérité, je n'aurais pu vivre sans jardin, fût-il étroit comme une page. Des milliers de silhouettes rôdent de l'autre côté des murs, s'éparpillent, se dispersent à travers le monde, alimentent mon jardin en fruits de toutes sortes.
Merci Joël Vernet,
sont obligés
d'entendre. Et à bientôt. Alors je rappelle le titre, Copeaux du dehors, de Joël Vernet, aux éditions Fata Morgana. Le livre vous coûtera 25 € à lire de toute urgence. Et à très bientôt, Joël Vernet.
À
très bientôt. Et merci.
Au revoir. Merci à vous. Au revoir.